Bonsoir Hélène.
Bonsoir à tous. Les dirigeants d'Orpea sous le feu des questions et des critiques des députés aujourd'hui. Audition houleuse à l'Assemblée sur la gestion financière du gestionnaire d'EHPAD. La campagne électorale et les propositions des candidats à gauche, ils ont choisi de parler logement devant la Fondation Abbé Pierre. À droite, sécurité et immigration devant le syndicat de Police Alliance. Dans l'actualité encore, la colère de Moscou après l'annonce du déploiement de troupes américaines. 3000 militaires à l'est de l'Europe. Des fugues en série dans les hôpitaux psychiatrique de Toulouse. Information ce soir de nos confrères de France Bleu Occitanie. La fin de la grève des poubelles à Marseille. Et puis, on entendra la voix magnifique de Monica Vitti, l'actrice italienne muse d'Antonioni, morte aujourd'hui à 90 ans. Et au téléphone sonne, Fabienne.
Eh bien, le masque dans la rue, c'est fini. Le télétravail obligatoire aussi. Au revoir les jauges. Levée des restrictions phase 1, c'est parti. On est tous d'accord, c'est tant mieux. Ce qui ne nous empêche pas d'avoir une petite musique en tête qui dit « Ouais, mais si on était trop pressé ?» Bref, à vos questions, vos remarques, à nos invités au 01 45 24 7000.
France Inter.
Ça a donc été un après-midi désagréable pour les patrons d'Orpea sous le feu des questions, mais aussi pour les députés qui n'ont eu que des réponses, qui n'ont pas eu les réponses qu'ils attendaient. Bonsoir Hélène Chevalier.
Bonsoir.
Les dirigeants du groupe étaient entendus par la commission des affaires sociales de l'Assemblée à la suite de l'enquête Les Fossoyeurs de Victor Castanet et ça a été un peu tendu.
Oui, même très très tendu. C'est avec en main le livre justement de Victor Castanet, Les Fossoyeurs, largement stabiloté, que les députés ont enchaîné les questions sur les profits du groupe Orpea, sur les taux d'encadrement, sur les systèmes de remise auprès des fournisseurs, sur la maltraitance de certains résidents ou encore la rentabilité financière. En face, et comme la veille avec la ministre Brigitte Bourguignon, le nouveau PDG Philippe Charrier ne reconnaît aucun système mis en place pour optimiser les profits. Les protections limitées à 3, on ne les compte pas, se justifie le PDG qui pourtant semble s'appuyer sur un fichier Excel.
J'ai pris Neuilly parce qu'on en parle beaucoup. À Neuilly, 2020, 4,6. 2019, 5,4. Mais bien évidemment, on les compte pas. On les compte pas.
Voilà, son directeur général Jean-Christophe Romercy ne convainc pas plus les élus de la commission des affaires sociales. Certains s'agacent même de son ton larmoyant ou de réponses anecdotiques, comme ici sur le petit déjeuner servi dans ces établissements.
Jamais, jamais, je ne demanderai, nous ne demanderons à choisir entre le beurre et la confiture.
Les députés en restent bouche bée, comme beaucoup Charlotte Parmentier-Lecoq, l'élu LREM, finit par perdre patience.
Moi aussi, je voudrais dire à quel point je suis vraiment outrée par la posture de M. Charrier et de M. Romercy. Depuis 2 heures, vous ne répondez pas à nos questions. Et vraiment, je salue la décision de la ministre d'avoir immédiatement lancé une enquête administrative et une enquête fiscale, parce que force est de constater que nous n'aurons aucune réponse spontanément de votre part.
Et c'est aussi la conclusion qu'en fera la présidente de la commission, Fadila Khattabi, qui finit par jeter l'éponge en interrompant brutalement l'audition au bout de 2h40.
Audition suivie par vous, Hélène Chevalier. Le système français de gestion des EHPAD est-il en partie la cause du scandale révélé par le livre enquête, Les Fossoyeurs? 50% de structures sont publiques, 30% associatives, 20% privées, avec pour elles aussi une partie de financement public, on l'a compris, mais des règles qui ne sont pas forcément communes. Le privé a droit à des exonérations de charges dont ne bénéficie pas le public. L'un des reproches formulés aujourd'hui par la Fédération hospitalière de France, Marc Bourquin, conseiller stratégique.
On ne peut pas continuer à courir le 100 mètres avec un boulet au pied. C'est illégitime et c'est injuste. Aujourd'hui, un EHPAD qui a 100 ETP, 100 personnels publics, il a plus de 500 000 euros de charges sociales supplémentaires. Avec ces 500 000 euros, on pourrait prendre l'engagement dans chaque établissement de créer des emplois tout de suite et de moderniser et d'investir. Quelle légitimité il y a aujourd'hui à dire que les établissements qui sont les moins coûteux, qui accueillent tous les publics, devraient payer plus de charges sociales. Il y a une inégalité de traitement et ça a des conséquences. Parce que si on ne peut pas moderniser, à terme, c'est cette offre publique qui est indispensable, qui sera menacée.
Le gouvernement a promis des propositions d'ici à la fin du mois pour prévenir les maltraitances dans les EHPAD.
Il y a encore plus de 4 millions de mal logés en France.
C'est le constat dressé par la Fondation Abbé Pierre dans son rapport annuel et elle considère même que plus de 14 millions de Français sont fragilisés par la crise du logement. Face à cela, le quinquennat d'Emmanuel Macron n'a pas été à la hauteur, juge la Fondation, qui a entendu les propositions des candidats à l'élection présidentielle cet après-midi. Ceux de gauche, ceux de droite se sont fait représenter. Bonsoir Claire Chaudière.
Bonsoir.
Que propose-t-il ?
Eh bien d'abord, sans surprise, de relancer la construction de logements, et notamment HLM, chacun avec son angle d'attaque. On écoute Anne Hidalgo, suivie de Christiane Taubira et Fabien Roussel.
Je suis du côté des maires bâtisseurs et il faut produire du logement.
Que l'État soit stratège et que l'État travaille avec les collectivités par un système de dotation et de bonus-malus.
Et ça passe par l'aide à la pierre. L'argent est là. C'est une question de volonté politique. Et
voilà, pour Jean-Luc Mélenchon, il faut réquisitionner les logements vacants, quitte à faire bouger un peu loin.
Dans mon quartier, depuis ma fenêtre, je vois des choses. Hein. Je vois cette femme avec le petit à la main. Donc je vous garantis que si vous dites à cette personne, il y a un logement dans les Vosges, ah bah elle ira dans les Vosges, parce que les Vosges c'est bien. Hein.
Quand Yannick Jadot prévoit un ministère, je cite, du droit au logement et sur la rénovation énergétique.
10 milliards d'euros par an sur la rénovation, avec zéro reste à charge pour les familles les plus vulnérables.
Sur le même sujet, Anne Hidalgo propose elle une avance sur travaux récupérés plus tard lors de la vente. Enfin, côté encadrement des loyers, tout le monde est pour le généraliser, sauf Valérie Pécresse, représentée par Aurélien Pradier. Priorité d'ILR au métier de la première ligne dans le logement social, mais pas plus de 30% de HLM par commune.
Mais je veux répondre à votre question sur les ghettos dont nous parlions tout à l'heure. Ce qu'il y a de pire pour tout le monde, c'est de mettre tous les problèmes au même moment, au même endroit.
Absent notamment car non convié Marine Le Pen et Éric Zemmour.
Claire Chaudière, et un peu plus tôt dans la journée, Emmanuel Macron avait reconnu que la politique de logements sociaux n'était sans doute pas allée assez loin ces dernières années. Quant à l'hébergement d'urgence, le chef de l'État lie la question à l'immigration, préconisant de nouveau une expulsion plus rapide des migrants qui n'ont pas droit à l'asile. Une question qui apparaît donc encore au cœur de la campagne électorale, devant le syndicat de police Alliance, où les candidats de droite sont venus défendre leurs propositions. Éric Zemmour a vanté une immigration zéro et comme Marine Le Pen et Valérie Pécresse, défendu l'expulsion des détenus étrangers. Et il est question de la gestion des flux migratoires en ce moment dans le Nord, à Tourcoing. Emmanuel Macron vient d'arriver au Conseil informel des 27 ministres de l'Intérieur de l'Union européenne pour défendre le pacte migratoire européen et la réforme de Schengen qu'il appelle de ses voeux. Vous êtes sur place, bonsoir Angélique Bouin.
Bonsoir.
Quel est le projet du président ?
Eh bien, le président français veut proposer aux pays de première arrivée, comme l'Italie, un filtrage plus rigoureux des demandeurs d'asile. En échange, les autres États membres devront mieux se répartir les migrants. Par exemple, ceux qui sont secourus en mer, les pays de l'Est ou du Nord qui refusent tout accueil, devraient participer à l'effort collectif avec une aide matérielle ou financière. Une proposition déjà faite par la Commission européenne, mais toujours pas mise en œuvre. L'autre objectif de la présidence française, c'est de réformer Schengen, cet espace commun de circulation dont les frontières extérieures ne sont pas suffisamment tenue, dit une source gouvernementale française. La France veut pouvoir remettre plus facilement des contrôles aux frontières intérieures également et veut créer un conseil des ministres Schengen pour être plus réactif en cas de crise migratoire sur le modèle de l'Eurogroupe, ouvert donc aux seuls pays membres de cet espace. Mettre en commun nos frontières, c'est comme pour la monnaie, cela ouvre des droits et des responsabilités, il faut mieux s'organiser, insiste-t-on à l'Elysée. La France propose enfin de créer un nouveau mécanisme de solidarité d'urgence. En cas d'arrivée massive à une frontière, les pays voisins pourraient y déployer des moyens humains et matériels en complément des gardes-frontières de Frontex.
Angélique Bouin, en direct de l'hôtel de ville de Tourcoing, où Emmanuel Macron a commencé à s'exprimer. Angélique Bouin, vous étiez avec Frédéric Carou. L'étape d'avant pour Emmanuel Macron, c'était une visite au Louvre-Lens pour découvrir le scribe accroupi. C'est un peu la Joconde du département égyptien du Louvre, prêté pour un an au musée. Le chef de l'État accompagné de collégiens et lycéens et le reportage signé Simon Le Baron.
Du haut de ses 53 cm, il impressionne ce scribe avec ses yeux de cristal.
Alors racontez-nous un peu l'histoire de ce scribe qui arrive.
Déjà, il a été découvert par Auguste Mariette, donc qui est de la région. Et du coup, on en est un peu beaucoup fiers parce que bah, c'est notre région.
Un peu beaucoup fiers, ces élèves, que ce chef-d'œuvre ait été découvert par un archéologue de Boulogne-sur-Mer et qu'il se retrouve ici, chez eux, dans ce musée construit sur une ancienne fosse des mines de Lens. Un territoire symbolique des ravages de la désindustrialisation et du chômage.
L'accès à la culture, c'est montrer qu'on peut mettre les plus belles œuvres dans des lieux qui ont souffert économiquement dans leur histoire. Et ça n'est pas qu'à Paris. Et je pense que c'est très important.
Un axe fort de la campagne officieuse d'Emmanuel Macron, l'État présent auprès de cette France qui ne vote pas ou souvent à l'extrême droite.
Nous devions vous présenter une autre œuvre de Raphaël et de son élève.
Oui.
Mais nous n'aurons malheureusement pas le temps.
Et pourquoi?
Mais déjà, ses équipes le pressent. Un appel urgent des États-Unis.
Non, vous allez préparer.
Oui. La situation internationale attendra. Le chef de l'État veut montrer qu'il a tout son temps pour les Français. Officiellement, il n'est toujours pas candidat.
Simon Le Baron avec Lucien Lefebvre. L'actualité à l'étranger, ce sont les États-Unis qui envoient des troupes dans l'Est de l'Europe. 3000 hommes, signe que les tensions avec la Russie sont toujours très fortes. C'est une décision destructrice, répond d'ailleurs ce soir Moscou. La ministre française des Armées, Florence Parly, sera de son côté demain au Niger pour discuter de l'avenir du dispositif Barkhane après l'expulsion de l'ambassadeur français par la junte malienne. Un label vert pour le nucléaire et le gaz, considéré donc depuis aujourd'hui par la Commission européenne comme de possibles énergies de transition. C'est une décision qui ne passe pas du tout auprès des écologistes et que dénoncent certains pays. L'Autriche, notamment, annonce déjà son intention d'engager une action en justice. Isorias est à Vienne.
L'Autriche n'a pas tardé à réagir. Sitôt l'annonce faite par Bruxelles de la création d'un label vert pour les centrales nucléaires, la ministre écologiste de l'Environnement, Léonore Gewessler, a pris la parole, dénonçant une décision dangereuse pour l'avenir.
L'énergie nucléaire ne contribue pas à la protection de l'environnement. Elle est beaucoup plus chère que les énergies renouvelables et demande trop de temps, alors que nous devons dès à présent limiter nos émissions. Tous les projets en cours en ce moment en Europe le prouvent. Il suffit de regarder Flamanville en France, où la construction de la centrale a commencé en 2007. Le projet aurait dû être achevé en 2011. Or, en 2022, il ne fournit toujours aucune électricité. Et dans le même temps, son coût a triplé par rapport à ce qui était initialement prévu.
L'Autriche va préparer dans les prochaines semaines les démarches juridiques. Si cette taxonomie prend effet, prévient la ministre, le pays lancera alors une procédure devant la Cour de justice de l'Union européenne. L'Autriche est depuis des décennies farouchement opposée à l'énergie nucléaire. Ses habitants ont dit non à l'atome dès 1978 par référendum. 44 ans plus tard, 80% d'entre eux s'y disent opposés. Ce refus est même inscrit dans la Constitution et fait aujourd'hui consensus. Vianney Isorias, France Inter.
Et puis en bref, ça commence à souffler très fort. Hein. La Réunion alerte cyclonique rouge. Cette nuit, les habitants sont invités à rester chez eux.
4 mois de prison avec sursis requis pour les deux hommes qui se sont filmés, s'entraînant à tirer sur plusieurs personnalités politiques.
Contre le président Emmanuel Macron, mais aussi les insoumis Alexis Corbière et Raquel Garrido. Les deux prévenus, un cuisinier et un militaire, se disent sympathisants d'Éric Zemmour. Ils ont eu l'occasion de s'expliquer aujourd'hui devant le tribunal, Emmanuel Leclerc.
« Je ne fais pas de la politique, je fais de la cuisine », s'exclame le premier prévenu. Puis s'excuse, « Je suis mal, je ne savais pas que cet humour de bof allait se retrouver sur les réseaux comme ça. C'était privé. Son ami avec qui il a tourné ses vidéos, il l'a rencontré au meeting d'Éric Zemmour à Villepinte. Je ne savais pas qu'il avait un compte avec plus de 400 abonnés. Moi, le mien, poursuit-il, il n'y en a que 14 ». Et je ne poste que des images de cuisine. Le deuxième prévenu renchérit sur le caractère privé, l'humour de bof et le piratage de ses vidéos qui n'auraient pas dû toucher le grand public. Avec une croix de Jérusalem, des Templiers tatoués dans le cou, ce militaire explique qu'il avait créé un compte privé car son statut de militaire, justement, lui interdisait de faire de la politique. Le député Alexis Corbière, très ému, est venu expliquer à la barre que ce genre de vidéo avec des tirs d'armes bien réels ne pouvait être comprise que comme une menace de mort et pas de l'humour. Il faut arrêter ça, car le risque avec ce genre de vidéo, diffusé sur des comptes Instagram, même privés, mais surtout très politisés, c'est qu'un jour, l'un des abonnés passe vraiment à l'acte.
Emmanuel Leclerc. Mais que se passe-t-il à l'hôpital psychiatrique Gérard Marchand de Toulouse? Information ce soir de nos confrères de France Bleu Occitanie. Ce ne sont pas 3, mais 5 personnes qui ont fugué en 10 jours, Pascal Daniel.
Effectivement, la dernière fugue en date, celle d'un homme de 43 ans connu pour des faits de viol, remonte au 28 janvier. Mais entre la fugue du cannibale de Nouillan le 19 janvier et la fugue le 23 janvier d'un quadragénaire interné après un double meurtre, il y a eu 2 autres fugues. Pas du tout médiatisé et pour lesquels aucune communication officielle n'a été faite en dépit de la grave crise que traverse alors l'hôpital Marchand. Il s'agit de la fuite le 22 janvier d'un patient potentiellement dangereux signalé quelques heures plus tard près de l'île du Ramier, avenue de Muret à 3 km de Marchand et finalement ramené par la police. Il faut enfin ajouter la fuite le même jour, le 22 janvier, d'un patient non dangereux mais dont la fugue a duré beaucoup plus longtemps. Il a passé la nuit hors de Marchand et a été retrouvé chez un ami à Rodez, à 160 km de l'hôpital psychiatrique.
France Bleu Occitanie. Il va y avoir des discussions la semaine prochaine sur l'évolution du protocole sanitaire à l'école. Cette fois, le gouvernement veut concerter avec les organisations syndicales et les parents, s'y prendre très en amont. Les éventuels allègements prendront effet après les vacances de février. Information liée au Covid encore, les masques FFP2 seront désormais gratuits en pharmacie pour les personnes immunodéprimées, à risque de formes graves et pour lesquelles la vaccination n'est pas assez efficace. Et puis les théâtres ont bien du mal à se relever des restrictions liées à l'épidémie. La fréquentation des théâtres privés à Paris et dans les grandes villes a baissé de 15% au quatrième trimestre l'année dernière, Stéphane Capron.
La période des fêtes est traditionnellement la meilleure pour les théâtres privés. Décembre 2021 aura été le pire mois depuis la création du syndicat. Près de trois quarts des adhérents ont dû annuler des représentations de 2 à 16 selon les théâtres en raison de cas de Covid dans les équipes artistiques ou techniques. Sur le dernier trimestre, le manque à gagner est de 25% par rapport à une configuration normale. Et malgré beaucoup de nouveautés à l'affiche, Bertrand Tamin, le président du syndicat national du théâtre privé, constate que le mois de janvier n'a pas été extraordinaire.
On a un certain nombre de spectateurs parmi les plus âgés qui ont toujours peur de se retrouver dans des lieux confinés, ça c'est indéniable. Les théâtres sont très pleins en fin de semaine et on a des débuts de semaine un peu atones, mais je pense que ça s'explique beaucoup par le télétravail. Je pense que quand les gens restent chez eux pour travailler, ils n'ont pas envie de sortir le soir, de prendre le train, les transports en commun pour se retrouver dans un théâtre.
Le théâtre privé emploie 4200 salariés, dont la moitié sont des intermittents qui attendent toujours de nouvelles mesures de soutien de la part du ministère de la Culture. Quant aux patrons des théâtres, 60% ont contracté des prêts garantis par l'État et près de 40% déclarent ne pas pouvoir respecter leurs échéances de remboursement.
Stéphane Capron. Et puis à Marseille, Force Ouvrière annonce la fin de la grève des éboueurs, la troisième en 4 mois. La mairie avait dû faire appel à des sociétés privées pour dégager les ordurières.
Les amoureux du cinéma italien pleurent, l'une de ses icônes.
Monica Vitti, morte aujourd'hui à 90 ans, on ne la voyait plus depuis des années, malade d'Alzheimer. Mais ceux qui ont aimé le cinéma des années 60, celui du cinéaste Michelangelo Antonioni, n'ont pas oublié son regard aussi rieur que mélancolique et sa voix brumeuse. Actrice fragile, précaire, disait-elle dans cette archive INA de l'émission Le Bon Plaisir en 96 sur France Culture.
Quelqu'un comme moi qui a commencé à jouer à 14 ans et demi fait un peu de mélange entre le spectacle, la réalité et l'irréalité. Et c'est nécessaire aussi, pour moi. Je ne pose pas bien mes pieds sur la terre. Je ne sais pas pourquoi. Parce que manque d'équilibre. Je n'ai pas d'équilibre. Je vous l'ai déjà dit. Mais ça me donne aussi liberté.
La carrière de cette reine du cinéma est à retrouver en photo sur franceinter.fr. Le bonheur est une bulle de savon qui éclate quand on la touche. C'est joli, la poésie des mots d'Honoré de Balzac. Et si la bulle n'éclatait pas, le bonheur durerait-il toujours? Eh bien, on va pouvoir le vérifier parce que des chercheurs du Nord ont réussi à créer une sorte de bulle éternelle qui a tenu un an avant de finalement éclater.
Ah ben, c'est court l'éternité, dites-moi.
Ces chercheurs travaillent à l'Institut de microélectronique et de nanotechnologie de l'Université de Lille. Et Cécile Bidot les a rencontrés.
Dans le laboratoire trône une grande boîte transparente. À l'intérieur sont déposées une dizaine de bulles de 10 mm de diamètre. Elles ont été fabriquées par Aymeric Roux, doctorant du labo, à l'origine de la découverte.
Je verse le liquide dans une boîte de pétri.
La clé, c'est la composition. Car ce qui fait éclater une bulle de savon, c'est le liquide lui-même. Il coule vers le bas et fragilise la paroi. Les chercheurs ont donc ajouté de minuscules particules de plastique qui consolident l'ensemble. La touche finale, c'est l'utilisation du glycérol qui limite l'évaporation de l'eau et renforce encore un peu plus la bulle. Les chercheurs de l'Université de Lille ont donc établi cet incroyable record. L'une de leurs bulles a tenu 465 jours. Au 465e, tout de même un petit pincement au cœur pour Michael Baudouin et son équipe.
C'est vrai qu'on était vraiment étonnés parce qu'à partir du moment où elle avait tenu une année, qu'on avait identifié les mécanismes de survie, on ne pensait pas du tout qu'elle allait éclater.
En regardant les bulles les plus anciennes, on peut voir qu'elles ont verdi. L'hypothèse est donc que des bactéries ou des moisissures soient à l'origine de l'éclatement. Pour Alexis Duchesne, maître de conférences à l'Université de Lille, la magie de l'enfance et la physique sont réunies dans ce projet.
Il y a vraiment une part de poésie là-dedans. C'est une des raisons pour lesquelles on choisit ce métier.
Avant de de penser aux applications futures, l'équipe lilloise va essayer, juste pour le plaisir, de remplacer la poudre de plastique par du cacao.
Cécile Bidot, France Bleu Nord, et on restera sur la poésie de cette bulle presque éternelle.
Voilà, l'éternité, c'est
je vois
c'est
bien que vous retenez.
Mais j'ai bien retenu, en tout cas, merci beaucoup, Hélène, à demain.